Partager la parole de Dieu, si vous le voulez bien. Il y a quelques semaines, on a entamé ce thème « Connaître Christ ». Et ce matin, j'aimerais vous présenter Christ le vainqueur. Alors vous dites, mais on connaît Christ vainqueur. Mais il y a un aspect de la victoire de Christ qui, parfois, nous échappe un peu, où on n'a pas forcément pris le temps de méditer à la profondeur et à la valeur de cette victoire que personne a pu remporter, ni avant, ni après lui. C'est ce qui fait la différence. On va lire ensemble un premier texte dans le livre des Actes au chapitre 4, les versets 5 au verset 14. Actes chapitre 4, versets 5 à 14. Le lendemain, leurs chefs ainsi que les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec le souverain sacrificateur Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille des principaux sacrificateurs. Ils firent comparaître au milieu d'eux Pierre et Jean et demandèrent par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ? Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, il leur dit « Chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par laquelle nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus, mais en voyant debout auprès d'eux l'homme guéri, il n'avait rien à répliquer. On va plus loin, Actes chapitre 5, à partir du verset 27. C'est encore une fois ce moment si difficile où on fait comparaître ses disciples pour avoir accompli des miracles au nom de Jésus. Et on sait que c'est un moment autant de bénédictions, autant de manifestations de la puissance de Dieu, autant de combats parce que l'ennemi s'oppose toujours. Quand le peuple de Dieu annonce l'évangile, quand le peuple de Dieu loue l'Éternel, il y en a un qui n'est pas content. Et je crois que c'est une bonne chose qu'il ne soit pas content. N'est-ce pas ? On continue la lecture ? Actes chapitre 5, à partir du verset 27. Après les avoir amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin, les souverains sacrificateurs, les interrogea en ces termes. Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là. Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Il parle de Jésus, n'est-ce pas ? Pierre répondit ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme un prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. En les entendant, ils étaient exaspérés et auraient voulu les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il leur dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous avez l'intention de faire à l'égard de ces hommes. Car il n'y a pas longtemps que se leva Théodas, qui se disait quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute, et il n'en resta rien. Après lui, se leva Judas de Galéen, à l'époque du recensement, Et il entraîna du monde à sa suite. Il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Amen. Autant il peut y avoir des moments de bénédiction, autant nous pouvons vivre des moments de contradiction. Le monde veut venir contredire ce que la parole de Dieu dit. Autant nous vivons des moments de grâce, autant le monde voudrait en réalité empêcher que cette grâce continue de se répandre. Mais ce qui m'a interpellé particulièrement, c'est l'exemple qui va être utilisé par cet homme qui fait preuve d'une grande sagesse, Gamaliel. Et qui leur cite des personnes qui ont pu, peut-être pendant un temps, relier à leur cause, à leur pensée, à leur doctrine ou à leur philosophie un certain nombre de personnes, mais qui sont morts. Et après quoi ? Rien du tout. Citez-moi, s'il vous plaît, combien vous connaissez-vous de personnes qui soient mortes, ressuscités et qu'ils ont été élevés autant que Dieu et qu'ils le sont véritablement. Vous en connaissez beaucoup ? Beaucoup de religions aujourd'hui se posent sur la vie, le parcours d'une personne. Mais quand cette personne, elle est morte, elle n'est jamais revenue. Il y a peut-être une statue qui était forte. Bien faite. Il y a des pays qui ont été remplis de statues d'hommes qui se disaient Dieu sur terre. Non ? Et quand ces hommes, leur régime est tombé, les statues ont été faites tomber. N'est-ce pas ? Vous avez des pays où certains hommes, certaines autorités se sont élevés au droit de se sentir comme Dieu. Il y en a certains même, ils ont écrit certaines choses avec leur propre sang. Ils ont fini dans les caniveaux. Comme des bêtes, en accomplissant encore une prophétie qui s'était déjà accomplie, non ? Et on se dit, mais Seigneur. Et là, cet homme, il dit, mais attention, on vous parle de quelqu'un qui est ressuscité. Frères et sœurs, nous avons la grâce, et je crois qu'il est important pour nous de connaître ce Christ vainqueur de la mort. Les disciples ont pu finalement témoigner de ce Christ vainqueur qui a l'autorité pour guérir les malades. Est-ce que nous, quand on prie pour les malades, est-ce qu'on glorifie ce Christ vainqueur de la mort ? Oui, mes frères, vous savez, il y a parfois des maladies que... Quelle maladie peut résister à Christ ? Alors certes, il est important pour nous de dire, Seigneur, non pas notre volonté, mais la tienne. Ça ne se discute pas. Qui pourrait s'opposer à la volonté de Dieu ? Nous, parfois, on pourrait être limité dans notre compréhension. On ne voit pas plus loin que notre nez, non ? Dieu s'y permet certaines choses. Il en a la compréhension complète, totale. Il ne connaît pas seulement le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir. Mais dans combien de situations Dieu a pu guérir des personnes qui, pour la médecine, ils étaient incurables ? C'était fini. Et pourquoi ? En s'appuyant sur le nom de celui qui est vainqueur aussi de la mort. Aussi de la mort. Et pas seulement il a vaincu la mort, il est venu parmi les siens. Est-ce que vous croyez que Jésus est là ? Oh ! Est-ce que c'est un fantôme ? Pourtant, vous ne le voyez pas. Non ? Mais son esprit est là. Et on sait qu'il agit. Quand on prie, quand on invoque le nom de Jésus, on sait que Jésus, il est là et il agit. N'est-ce pas ? Alors quelle grâce pour nous, frères et sœurs, de pouvoir faire face aux difficultés du monde, même si parfois, excusez-moi, on peut prendre un peu de coups. Y repartir tout joyeux. Alors je vous rassure, je ne vais pas me mettre à l'entrée pour voir si vous allez repartir tout joyeux après avoir pris des coups. C'est pas du tout ça. Mais parfois, à cause du nom du Seigneur, on peut prendre des coups. Et on pourrait être tenté de dire, mais puisque c'est comme ça, Seigneur, tu m'excuses, je suis allergique aux coups. Regarde, le frère là-bas, il est un peu plus costaud. Lui, il peut. Pas moi, Seigneur. J'ai la peau qui marque. Mais eux, ils étaient heureux. Heureux non pas de prendre des coups, ils étaient pas, ils n'aimaient pas la souffrance comme ça, juste gratuite. Mais heureux de dire, nous avons été estimés dignes de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Parfois, cette souffrance, elle est profonde. Alors, la victoire sur la mort est une différence de taille. Ésaïe, chapitre 25, verset 8, il nous dit que cette victoire est annoncée par le prophète. Il dit le texte, il anéantit la mort pour toujours, dit la parole de Dieu. Pour toujours. Le Seigneur est venu anéantir la mort pour toujours. La mort n'a pas pu le retenir. Avez-vous déjà réussi à vaincre la mort? Allez voir les médecins. Ils vivent et ils sont confrontés à la mort tous les jours. Parfois, ils sont obligés presque de banaliser la mort. Excusez-moi, parce qu'ils sont tellement confrontés à ça tous les jours, ils se disent, bon, il est mort. 11h17, 11h10, 11h05, on note et on passe au prochain cas. Mais Jésus n'est pas comme ça. Il a vaincu la mort. Et à votre avis, pour qui? Le but, c'est quoi? Parce que peut-être un jour, on va mourir. Je dis peut-être. Si le Seigneur revient ce matin, notre corps ne connaîtra pas la mort, on est d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Allez! Vous êtes prêts? Prêts ou pas? Si on est prêt, oui. Si quelqu'un reste, s'il vous plaît, vous éteignez la lumière avant de partir. Moi, je vous dis sincèrement, ce n'est plus mon problème. Les clés, je vous les laisse sur l'estrade. Mais je pense que si quelqu'un devait rester, il serait malheureux de se dire, Seigneur, on m'avait averti et je ne l'ai pas cru. Si Christ a vaincu la mort, c'est pour nous offrir la vie éternelle. N'oubliez pas que la mort a été une des conséquences du péché, non? Et cette mort était quelque chose de tragique, parce qu'à partir de la mort, quelqu'un ne peut plus rien changer pour son avenir, pour sa vie éternelle. Une fois qu'on est mort, c'est terminé, on a tiré le trait, et il faut juste attendre le moment de mettre le chiffre final en dessous. Quel est le poids de notre vie spirituelle en Christ? On va parler de poids ce matin. Quand vous montez, je parle pour vous, moi j'y monte jamais, sur un pèse-personne, vous espérez trouver quoi comme chiffre? Moins que la réalité, la sincérité est sur la bouche des enfants. Hein? Parfois, on est tenté de mettre juste un pied pour voir. Ouais, ça me convient. Ça me convient. Moi, dès que mon pèse-personne me voit, il me dit, toi, prends ton chemin. Et moi, je lui dis, moi, je ne te connais pas. Mais quand on sera devant le Seigneur, on sera tous, frères et sœurs, pesés. Et le poids, ce n'est pas le poids des kilos qu'on a pu prendre. Hein. Ça ne sert à rien de rentrer à la maison et de manger 3 baguettes de suite. Hein. C'est le poids spirituel. Vous vous rappelez de cette parole qui va être écrite sur un mur, pesée et trouvée léger. Tu as été pesé. Tu as été repesé. Et encore une fois, tu as été trouvé léger. Que Dieu fasse qu'on puisse avoir du poids spirituel pour notre vie. N'est-ce pas? Mais cela, on doit en prendre conscience. Donc, il est question pour nous de comprendre que Christ a vaincu la mort pour toujours. La mort n'a pas pu le retenir. Actes chapitre 2, verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Imaginez de faire une promenade au cimetière. Pas belle promenade, hein, mais ça arrive. Non ? Et d'un coup, vous voyez les gens se relever. Certains vont courir très vite. D'autres tellement vite que les chaussures, elles sont restées collées au sol, mais eux, ils sont déjà partis. N'est-ce pas ? Mais la parole de Dieu nous dit que quand Christ a donné sa vie à la croix, il y a un seul évangile qui rapporte cela. Il dit qu'il y avait des hommes morts en Christ qui sont ressuscités. Et 3 jours après, ils sont rentrés dans la ville. Waouh ! Alors imaginez la tête de ceux qui les ont vus venir, non ? Ça fait étrange quand même, non ? Mais c'est la preuve que pas seulement Christ, il est ressuscité. Il fallait que le monde, que la foule, apprennent qu'il y avait des personnes qui étaient mortes, enterrées, sont ressuscitées. Qui peut faire cela ? Jésus. Jésus. Par la puissance de Dieu. Nous avons un grand Dieu. Amen. La victoire sur la mort pour secourir. Pour secourir un fils. Luc chapitre 7, versets 12 à 15. Il dit que lorsqu'il fut pressé, près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et lui dirent « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Moi, j'imagine la tête des pompes funèbres. Vous ne pouvez pas faire payer une facture pour quelque chose qui n'a pas arrivé au bout, non ? Non ? Vous imaginez jamais des trucs comme ça, vous ? C'est moi qui suis un peu... Hein ? Je me dis, Seigneur, j'imagine les gars des pompes funèbres. Les pleureurs qui avaient été payés pour. Parce que c'était comme ça, il y avait des pleureuses. On les payait. Et là, il faut remettre les petites gouttes dans la bouteille et garder ça pour la prochaine fois. Et là, tout a changé. Ce qui était devenu un enterrement s'est transformé dans un moment de joie. Qui peut faire cela si ce n'est Jésus ? Amen. On va plus loin. Il dit la parole de Dieu, si, d'un ami, d'un frère. Jean chapitre 11, versets 43 à 44. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Si nous, la mort nous retient, si nous, la mort, elle nous lie d'une certaine manière, Christ est celui qui nous délivre, est celui qui nous libère, est celui qui nous relève, est celui qui nous redonne le souffle de lui, est celui qui agit au-delà de nos attentes. Je me rappelle d'une prédication que j'avais faite en Alsace. Et là, il y avait un frère qui venait d'un pays qui a connu des horreurs. Et ce frère, en partant de chez lui, il entendait sa famille crier. Plusieurs ont été tués. Il n'a pas su combien de sa famille, son père, sa mère, ses frères ont été tués. Il a pu s'échapper. Et il pleurait, il disait, j'ai plus personne, j'ai plus personne. Et ce soir-là, le Seigneur m'avait mis à cœur de prier, de partager ce texte où ce n'est jamais fini avec Christ. Ce n'est jamais trop tard avec Christ. Rien n'est impossible à Christ. Et ce frère, il pleurait, il dit, mais moi, je n'ai plus de famille. Et vous savez quoi ? Dans la semaine qui a suivi, des gens de sa famille ont retrouvé ses traces. Et le dimanche matin, mais j'ai vu revenir ce frère. Alors, est-ce que vous pensez qu'il était tout triste ? Il était heureux. La mort ne peut pas retenir la puissance de Dieu. Quand nous, parfois, on peut dire, mais c'est mort, c'est fini. Christ a encore quelque chose à nous enseigner. Le Père pour un fils. 1 Pierre chapitre 1, verset 21. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Béni soit Dieu parce qu'il veut que notre foi soit remplie d'espérance. Et il va encore plus loin. Il appelle tous les hommes qui sont dans les tombeaux. Regardez Jean chapitre 5, verset 28-29. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Pour quel des deux côtés voulons-nous nous relever ? Dites-moi. Le choix vous revient. Hein. Ce n'est pas moi qui choisis. Hein. Lui, oui. Lui, non. Lui, oui. Lui, non. Non. C'est vous. Et Dieu soit loué pour ça. Quelle lourde responsabilité que pour un homme de dire lui, il est sauvé, lui, il n'est pas sauvé. Et que Dieu nous garde parfois dans nos discours de dire lui, il est sauvé, lui, il n'est pas sauvé. Qui es-tu pour juger ? Non ? Ouais, mais Seigneur, lui, il n'est pas trop gentil. Et toi ? Ah, Seigneur, sage comme une image. Heureusement que j'existe. Autrement, ce pays aurait été déjà rasé, Seigneur. Humble et fier de l'être. Non ? Dieu nous garde. Que Dieu nous amène à être un tout petit peu plus... Hein ? Plus petit. Et là, la parole de Dieu nous rappelle qu'il y a quelque chose qui va encore se tenir, se passer. La victoire sur la mort. N'oublions pas que Jésus tient les clés du séjour des morts. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Christ est capable de faire des choses incroyables. Avez-vous déjà vu quelqu'un près de la mort être ressuscité quelque part ? Moi, ça m'est arrivé. Ça fait drôle. Hein ? Ça fait drôle. On avait été appelé pour le papa d'Elisabeth. Les médecins nous disent qu'il est en train de mourir, il faut venir vite. Nous, on habitait Besançon à ce moment-là et ses parents habitaient Mulhouse. Et pendant toute la route, moi, je disais, Seigneur, je te demande juste une chose. Permets qu'Elisabeth puisse dire au revoir à son papa. Je demande juste ça. On arrive sur place et finalement, ben, on trouve sa belle-sœur. Ma belle-sœur était là, en train de pleurer. Il dit, mon papa, il est décédé comme ça il y a à peine un mois, la pauvre. Je comprends, elle était dans une énorme souffrance. Il dit, juste un mois, et j'ai perdu mon père et maintenant je vais perdre mon beau-père. Et là, les médecins ils nous disent, ben, faites vite parce qu'il va partir. Et là, il y a quelque chose qui vient sur mon cœur. Lis le psaume 23. OK. Qu'est-ce que je fais ? Je lis le psaume 23. Et pendant que je lis ce psaume, voici que mon beau-père commence à s'agiter. Ma belle-sœur, elle fait un saut. Pas possible. Vous imaginez, d'un coup, elle le voit bouger. Alors qu'elle avait passé une journée entière, lui, il n'avait pas bougé d'un millimètre. Elle fait un saut, un bond. Il dit, je ne comprends pas. Et mon beau-père qui revient, alors tout de suite, ils enlèvent les tuyaux, ils enlèvent tout. Et il dit, j'étais auprès des courants d'eau. J'étais auprès des courants d'eau. Et alors les médecins, ils sont venus, ils disent à toute la famille, mais écoutez, il recule pour mieux sauter. Je ne connaissais pas l'expression, si ce n'est dans le sport, hein, dans les Olympiades, tu recules et après tu sautes. Bon, j'ai dit, vous êtes sûr ? Ah oui, 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 oui. Eh bien, tout le monde est passé, lui dire au revoir. Je lui dis, t'as vu autre chose à côté du fleuve, tranquille ? Elle dit oui. Et on a pu partager. Et après, je dis à ma femme, écoute, tu restes avec les tiens, moi je reste à la maison, je rentre à la maison m'occuper des enfants, mais il n'y a pas de souci. T'es sûr, tu vas partir ? Je dis, tranquille, tu vas voir. Le Seigneur avait mis une paix dans mon cœur. Eh bien, il est sorti de l'hôpital et le Seigneur lui a donné encore des années. Ah, mon beau-frère, lui, un converti, rétrograde, il vient voir son père, il dit, papa, qu'est-ce que tu veux manger pour la dernière fois ? Mon beau-père, il ne perdait pas le nord. Un petit croissant. Tu veux boire quelque chose ? Petite bière. Alors certes, sans alcool. Mon beau-frère s'est dit, il faut que je fasse les dernières volontés de mon père. Je lui étais certain. Achète une gagette alors. Dieu est grand. Dieu est grand. Frères et sœurs, je voudrais vous encourager parce que ces derniers temps, on entend parler beaucoup de la mort. Beaucoup de familles ont été touchées, c'est une réalité. Mais moi, je vois que pendant cette période de mort, beaucoup sont ressuscités dans leur vie spirituelle. Non ? Ce n'est pas l'œuvre de Christ ? Alors certes, on a tous hâte de sortir de cette période si terrible. Mais combien de résurrections sommes-nous en train de voir ? Non ? Amen ? On continue ? On va vers la fin, si vous voulez bien. La victoire sur la mort dont la fin est annoncée. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 25 à 28. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toute chose est exempté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui l'a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Alors j'aimerais terminer par un texte qui se trouve toujours en 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 51. Il est question pour nous, frères et sœurs, que cette victoire soit considérée au juste titre comme une victoire unique, et que personne ne peut se substituer à Jésus-Christ. Amen. Comprenons bien que Christ s'est soumis, lui, à la mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre vie. Quelle joie pour nous. Je crois qu'il est important, vous savez, le jour de Pâques, peu importe la date, quand des chrétiens se retrouvent, qu'on se rappelle les uns les autres que Christ est vivant. Ça vous arrive de rencontrer des chrétiens qui sont toujours en train de se plaindre ? Pas chez nous. Vous savez, les chrétiens tamalous ? Vous ne connaissez pas les chrétiens tamalous ? C'est ceux qui vous répondent « Bobola ». Comment tu vas ? Ah, si tu savais. Et ils ont toute une liste. Et après, ils rencontrent une deuxième personne. Comment tu vas ? Ah, si tu savais. Et ils ressortent la liste. Des fois, je me dis, peut-être ils n'ont même pas le temps d'aller s'asseoir pour prier. Alors certes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Et croyez-moi, moi, des fois, si je pouvais un peu m'en décharger, mais je sais que je peux le faire. Et c'est ça qui fait que je suis toujours présent en réunion. Non ? Parce qu'on n'est pas juste aux réunions présents parce qu'on est pasteur, non ? Parce qu'on est convaincu de ce qu'on vit. Si c'était pour une charge, pour une responsabilité ou pour un nom, excusez-moi, on peut faire des fonctionnaires. Mais moi, je sais que Christ a la solution. Et quand on vient au Seigneur, on a des problèmes, mais on devrait pouvoir, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, le secours de Dieu, repartir soulagé, libéré, parce qu'il n'y a rien qui résiste à Christ. On termine. Allez. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. J'entends pas d'alléluia. Mais tous, nous serons... Alléluia ! Il y a de l'espérance pour tous. Hein ? Regardez pas à votre voisin ou à votre mari ou à vos enfants, il ne changera jamais. Oh, combien de fois j'ai entendu cette phrase ? Et des fois, j'ai entendu « Je changerai quand il changera ». Nous serons tous changés en un instant. Et on a un clin d'œil à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Frères et sœurs, c'est la lumière qui engloutit les ténèbres. Soyez des bons vivants. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. J'aimerais m'arrêter juste quelques instants sur cet encouragement, sur cette parole, je dirais un mot d'ordre pour chacun de nous, mes frères et sœurs. Soyez fermes et inébranlables. Oui, certes, on passe par des moments difficiles, mais soyez fermes et inébranlables. Oui, certes, votre famille ou peut-être même votre santé est touchée, mais restez fermes et inébranlables, parce que celui qui a vaincu, c'est notre Dieu. Il est notre sauveur. Et le texte dit, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Moi, j'aimerais qu'on puisse écrire dans le ciel, pour chacun de nous, leurs progrès ont été évidents. Hein ? Qui aimerait entendre ça ? Vous savez, comme les bulletins scolaires, est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle ? Levez la main, ceux qui vont encore à l'école. Levez la main, bien, bien, bien haut, bien haut. Bien haut, n'ayez pas peur. On va prier pour vous, je ne vais pas vous demander de faire des trucs particuliers. Je ne vais pas vous charger du ménage à la fin de la réunion. Qui rêve de ramener à la maison un bulletin de notes où à chaque fois c'est écrit « Ses progrès sont évidents ». Levez la main. Si vous voulez, même les deux, hein ? N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'on est fiers. Alors je voudrais vous dire, Christ est fier de vous. Soyez fiers de Christ. Comment ? Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Soyez fermes, inébranlables, progressez toujours. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Oui, mes frères, j'ai 40 ans de foi. Et alors ? Continue. 40 ans, c'était juste la première étape pour Moïse. Et au bout de 40 ans, d'apprentissage, il a dû partir dans le désert pour désapprendre ce que le monde lui avait appris. Donc il a fait encore 40 ans. Et une fois qu'il a désappris ce qu'il avait appris dans le monde, il a pu servir Dieu encore. Alléluia. Qui a envie de servir le Seigneur ? Qui a envie de progresser ? Mais vous savez, les progrès ne sont possibles que si on est prêt à faire un bilan. Reconnaître ce qui ne va pas et dire, Seigneur, voilà les objectifs que je te prie de m'aider à joindre cette année dans ma vie, Seigneur. Si jusque-là, j'étais quelqu'un de négatif, aide-moi à voir, quelqu'un a prié tout à l'heure pour la Sainte-Seine, voir le verre demi-plein au lieu de le voir demi-vide. Moi, je veux pousser le bouchon un peu plus loin. Seigneur, je veux voir le verre plein. Amen. Quand Jésus a dit à ces hommes qui étaient venus l'interroger aux noces de Cana, en lui disant « remplissez les vases », il leur a dit de mettre la moitié. Pourquoi ? Vous imaginez s'ils avaient mis que la moitié d'eau ? Ça aurait été la moitié d'un miracle. Mais ils ont osé aller jusqu'au bout. Combien voulez-vous que le Seigneur vous remplisse et vous transforme ? 100% ? Est-ce que vous êtes prêts ce matin à dire, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Seigneur, échange ce qui ne va pas dans ma vie pour que je puisse progresser en sachant, Seigneur, que tout ce que je peux faire n'est pas vain pour toi. Mais c'est pour toi que je veux le faire, Seigneur. Mais Seigneur, je désire être capable de rester ferme et inébranlable, peu importe ce que j'entends. Peu importe ce que la télé me dit. D'ailleurs, parfois, je vous en conseille. Éteignez la télé. Prenez la Bible, c'est mieux, vous verrez. C'est beaucoup plus clair après. Vous ne risquez pas de coupure. Vous pouvez aller de la Genèse à l'Apocalypse. C'est bon. Il n'y a pas de pub au milieu. Non ? Et là, le Seigneur vous dira, mon enfant, je t'aime. Mon enfant, j'ai payé à la croix pour toi. relève-toi. Hier soir, il y a un gamin qui est venu me voir à la fin. Il me dit, pasteur, et tout ce que j'ai malheureusement connu dans ma vie, je n'arrive pas à comprendre que le Seigneur veuille de moi. Je lui ai dit, tu sais, pas seulement Dieu veut de toi. Il est venu te chercher. Il a payé pour toi. Et il a préparé un avenir pour toi. Ce n'est pas juste des mots. C'est une réalité. Et si c'était valable pour ce jeune homme, c'est valable pour chacun de nous encore ce matin. On va fermer nos yeux et on va demander au Seigneur ce matin de ressusciter peut-être ceux qui sont dans une période de leur foi, de leur vie, où malheureusement ils ont été accablés, où ils ont eu du mal à faire face aux situations, aux circonstances, aux épreuves, à la maladie, à ceux qui les a touchés de près ou de loin. J'aimerais ce matin donner courage à tous ceux et celles qui ont besoin à nouveau de reprendre cette fermeté dans la croissance spirituelle personnelle. Ceux qui peut-être ont été ébranlés, je voudrais les inviter véritablement ce matin à s'appuyer sur celui qui est le rocher des siècles et qui lui seul peut nous rendre inébranlables. Et je voudrais encore ce matin inviter ceux qui sont en cette progression, continuer à progresser, toujours pour le Seigneur. Seigneur, ta parole, elle est riche, ta parole, elle est grande, ta parole, elle est merveilleuse, elle nous indique que tu es unique. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Toi seul, Seigneur, as pu, Seigneur, accomplir à la croix ce que aucun homme n'aurait pu faire. Pourtant, la croix était un moyen de torture et oh, combien de malfaiteurs sont passés à la croix. Mais toi, tu n'avais rien fait. Et c'est à cause de cela, Seigneur, puisque tu étais pur, que tu as pu régler notre dette une fois pour toutes. Et Seigneur, tu ne t'es pas arrêté là. Tu n'as pas seulement payé notre dette, mais Seigneur, tu nous as délivrés de la mort éternelle. Et ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, toi qui es vivant, toi qui es ce Seigneur et Sauveur, qui tient les clés. Seigneur, toi qui es celui qui a toute autorité, toute puissance, Seigneur, passe parmi les rangs ce matin. Viens relever ceux qui sont fatigués, Seigneur. Seigneur, viens encourager ceux qui ont peut-être, Seigneur, pris tellement de coups, qui ont du mal à retrouver le sourire, Seigneur. Seigneur, viens motiver ton peuple tout à nouveau, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour notre pays qui aujourd'hui glisse de plus en plus, Seigneur, dans la violence, Seigneur, dans la méchanceté, Seigneur, dans l'injustice. Seigneur, et donne-nous d'être des flambeaux de ta parole, de ta vérité, de ta lumière, mais aussi de ton amour, de ta joie, de ta paix, Seigneur. Et si même on devait prendre des coups, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Sois notre secours. Seigneur, toi qui es le vivant, encore ce matin, Seigneur, si nous avons pu, Seigneur, parler de tout cela, c'est parce que tu es parmi nous. Et parce que toi, ton esprit atteste à notre cœur, Seigneur, qu'au-delà des mots, c'est le Saint-Esprit qui œuvre. Seigneur, je te prie pour ceux qui passent par un temps de dépression, ceux qui connaissent, Seigneur, cette épreuve terrible. Ils ont le sentiment d'être morts. Seigneur, je te prie que ta lumière brille dans les cœurs ce matin. Viens libérer, Seigneur. Viens relever, Seigneur. Seigneur, ce que la mort voudrait entraîner à cause du péché, à cause, Seigneur, de tout ce qui pourrait devenir pour eux, Seigneur, un piège, une prison. Seigneur, viens consommer tout cela et que ta bonté, ta miséricorde puisse communiquer la vie de l'Esprit, Seigneur. À toi, honneur et gloire. Amen.